Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien.
Préféré!
Avez-vous remarqué qu'on a changé les rôles?
On a changé!
Et qu'on est coquille.
On se trouve bien drôle.
Là, on leur dit-tu la situation, dans l'état dans lequel on est?
Ouais,
on n'est pas en boisson, inquiétez-vous pas. On vient juste d'enregistrer les deux épisodes de Moïse Thériault. Back to back.
Ouais.
Fait que là, on sait que vous les avez déjà écoutés, mais tu sais, vous vous rappelez comment c'était un peu intense. Fait que nos cerveaux, ils fonctionnent moyen.
Ouais, c'est ça. C'est beaucoup.
On est juste. Ouais.
Mais on est obligé de faire ça parce que Madame Mel s'en va en voyage pendant un mois. Fait qu'on planche pour que vous ayez vos épisodes.
Parce que je veux pas être en voyage. Puis être capable d'enregistrer ou d'écrire des épisodes. En fait, je vais en voyage pour relaxer.
Ouais.
Fait que, en même temps, relaxer. Ça va en Europe. Fait que, pas sûr que ça va être très repos.
En Europe, avec,
un enfant d'un ami.
Presque 2 ans.
Ouais. Là, c'est presque 2 ans, c'est vrai.
Ouais.
Donc, voilà dans l'état lequel. On est. Tabou. Désolée.
Heureusement, c'est pas toi qui raconte.
Non, c'est pas moi. C'était trop. J'aurais pas été capable.
Non,
de
c'est trop. Ouais.
Tu veux-tu un petit crime de potin pour commencer?
Oui, donc.
J'en ai un quand même assez important.
Okay?
L'épisode de René Keg que j'ai fait.
Oui.
Le junkie.
Ouais.
Ça a l'air que, OK, dans l'une des histoires, il a fait 3 meurtres. Et dans un des meurtres, celui d'Ophélie, il y a une demoiselle qui est dans l'auto, qu'on ne connaît pas son nom, et que dans l'histoire, moi, tu sais, nous, on relate de ce que les médias disent, parce qu'on s'entend qu'on ne parle pas aux victimes et tout. Dans tous les médias, ils disent que la jeune fille, c'était une victime et qu'elle elle sautait de l'auto en marche.
Mm-hmm.
Ça fait 2 personnes qui nous écrivent pour nous dire que c'est pas vrai. Et que la personne, il y a quelqu'un qui nous a écrit sur Instagram, je ne dirais pas son nom, puis elle m'écrit même le nom de la fille, que je ne vais pas dire non plus. Elle dit que Francis Lamy n'était pas au courant de l'intention de meurtre de René, puis il a appelé sa femme qui venait d'accoucher en pleurant parce que ce n'était pas leur plan. La fille dont vous n'avez pas le nom n'a jamais sauté de la voiture. Ils l'ont laissée sur le bord parce qu'elle était l'escorte et consommée avec René. Elle était dans le coup et tout le monde à Trois-Rivières le sait. René était un homme de main des Hells Angels. Si vous voulez plus d'informations, je peux vous en donner. Bon. Après ça, elle dit... Attends, là, je ne veux pas dire elle est qui, mais... Elle dit la fille qui, soi-disant, sautait de la voiture en marche. Elle dit elle a arrangé l'histoire à son avantage quand elle a vu que tout le monde se faisait ramasser. La fille en question, elle a eu un bébé avec Jérémy, mais elle était aussi l'escorte de René pour la drogue. Ils l'ont laissée sur le bord de la route. Francis n'était pas au courant que René allait tuer Ophélie. René était un très bon tireur car il était un homme de main des Hells Angels. C'est pour ça qu'ils l'ont mis après sur la protection parce qu'il a parlé. Et ça aurait été dangereux pour lui que les Hells le tuent.
Ah ouais.
Et il a perdu la garde de son enfant, René, et ses parents ont ses enfants à charge depuis le secondaire.
OK, ça fait longtemps qu'il avait perdu la charge, en fait. Ouais. pas à cause de ça. Là.
Ça ouais. fait... Il y a deux personnes qui nous ont écrit pour nous dire ça.
Donc, ça... Donc, là, c'est peut-être vrai.
C'est peut-être vrai. Là, je ne sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mm-hmm. C'est sûr que nous, notre côté, quand on fait des recherches, tu sais, on a accès à aux informations qui sont publiques seulement.
Ouais.
On n'a pas accès à des... On n'a pas plus d'accès que vous autres, dans le fond. C'est juste qu'on fait des recherches plus approfondies puis vraiment poussées. Mais si les médias disent toute une version de l'histoire, c'est sûr qu'on va assumer que cette version de l'histoire est vraie. Tu sais, souvent, ça arrive, on s'en parlait tantôt, que deux articles de journaux se contredisent. Fait que on essaie d'aller...
Souvent, tout le temps sérieux, en fait. Là, ouais.
Surtout, tu sais, comme Rock Thériault, quand je l'ai faite, il y a beaucoup... Je me suis fiée au livre de Gabrielle Lavallée parce qu'elle, c'est une victime, puis elle était là. Mais il y avait beaucoup d'histoires qui étaient racontées dans les articles de journaux qui n'étaient pas vraies ou qui étaient extrêmement différentes, surtout dans l'ordre des choses qui se sont passées, en tout cas. Bref. Fait que voilà, je sais pas qu'est-ce qui est vrai, je sais pas qu'est-ce qui l'est pas.
Mais c'est une, mais voilà l'information. Une hypothèse théorie intéressante, en tout cas.
Exactement.
Ce qui expliquerait pourquoi ils l'ont pas tué, en fait.
Exactement.
Ouais. OK. T'es-tu prête pour mon histoire?
Honnêtement, non. Mais oui.
Bon, puis TW, maintenant qu'on sait c'est quoi, on l'emploie tout le temps. Trigger warning, c'est pas un épisode facile.
Crème, on les gâte, nos auditeurs, avec des épisodes
fous. Ça parle de meurtre d'enfant, donc je vous préviens. Si vous avez pas envie d'écouter ça aujourd'hui, skippez. Genre, je me suis dit, quand je savais que tu partais en Europe en plus, j'étais comme, ah, peut-être que... Si jamais, tu sais, je pourrais en enregistrer un avec Anthony, si on n'a pas le temps. Puis là, je regardais les histoires que j'avais, j'étais comme, je peux pas raconter ça à Anthony. Il laissera plus jamais Angèle sortir de la maison.
Oh non! Oh, ça veut dire que l'histoire est vraiment horrible.
Ouais.
OK. Écoute, c'est ça notre job. Bon.
Ouais.
Allons-y.
Alors, aujourd'hui, je te raconte les enfants de novembre. Alors, mes sources, bon, des articles dans la presse, dans les archives de la presse, mais beaucoup, ce qui a été vraiment la meilleure source, c'est le balado « L'ombre du doute ». Pour ceux qui connaissent pas, allez écouter ça, ouais. C'est vraiment excellent. C'est Stéphane Berthomé qui est un journaliste d'enquête, donc il va vraiment prendre des cas puis aller enquêter lui-même puis essayer de trouver des nouvelles informations. Et la saison 3 au complet, il y a 9 épisodes qui sont sur le cas que je vous raconte aujourd'hui. Donc, si vous voulez plus de détails, plus toutes les entrevues avec la famille, les policiers, en tout cas, vous irez écouter ça. Je vous le conseille vraiment, vraiment. Parce que je vais pas tout dire aujourd'hui. Là. Je fais pas 9 épisodes.
Thank God. Thank God.
Alors, ça commence le 1er novembre 1984 dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Donc, pas loin d'ici. C'est un quartier assez pauvre à l'époque. Alors, on a le petit Sébastien Métivier, 8 ans. Il habite avec sa petite sœur Mélanie et sa maman Christiane Sirois. Christiane est récemment divorcée de du père des enfants, Daniel Métivier. Ils habitent sur la rue Desjardins, dans Hochelag, donc pour ceux qui connaissent le coin, entre la rue Adam et Sainte-Catherine.
OK.
Il y a aussi le petit Wilton Lubin, qui a 12 ans, et c'est le voisin et ami de Sébastien. C'est un enfant un peu... qui est malade, qui a besoin de soins réguliers. J'ai pas eu de détails sur c'était quoi sa maladie.
Okay.
C'est un enfant un peu malade. Les deux, ils participent à des activités parascolaires qui se déroulent dans l'église à quelques centaines de mètres de la maison, puis vraiment juste à côté de l'école. T'as comme l'école puis l'église juste à côté. Puis même que Christiane, de sa maison, si elle est sur le balcon, elle voit l'école puis elle voit l'église. C'est vraiment proche. C'est comme 4 minutes de marche à vitesse des petits gars. Fait que là, ce soir-là, après l'école, ils se rendent ensemble à l'activité. Quand Christiane, elle rentre à la maison, elle remarque que Sébastien, il est toujours pas là. Mélanie est là, sa petite sœur, mais lui, il est pas là. C'est vraiment pas normal. Fait que tout de suite, elle fait le tour du quartier. Elle appelle tous les amis de Sébastien. Pas de nouvelles. Elle contacte la police et là, sur le coup, elle se fait dire « Ah, il faut attendre 24 heures avant de déclarer une disparition. »
Une chance qu'on sait que c'est plus vrai aujourd'hui.
Il y a 8 ans, tabarnak, là. T'sais, c'est pas... c'est clairement pas une fugue, là. Mais au moins, finalement, il y a des policiers qui viennent à 23h30 ce soir-là.
OK.
Pour quand même prendre sa déposition, puis... mais ils sont pas trop stressés. T'sais, ils demandent « Bon, t'sais, il aurait pas pu faire une fugue. » Hugues, il serait pas allé chez un ami. Christiane est comme, non, j'ai appelé tous ses amis. C'est un bon petit garçon. Il me demande toujours la permission pour faire quoi que ce soit.
Tu devrais tellement écouter la mère. La mère, on les connaît, nos kids.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tellement, là. Puis là, pendant qu'elle parle à la police, elle entend sur le scanner des policiers, elle entend qu'il y a un enfant... Ouais, au genre de walkie-talkie. Ouais. Elle entend qu'il y a un enfant porté disparu au 1445 des Jardins. Elle, c'est 1415. Hein? Elle est comme, hein? Ben voyons, c'est qui? Finalement, elle se rend compte que c'est Wilton.
Ben non.
Wilton et Sébastien qui sont partis ensemble. Ensemble. Les deux sont pas revenus. En fait, ils se sont jamais rendus.
Mais pourquoi lui a le droit d'être porté disparu puis le...
Tomber sur des policiers plus smart, je sais pas.
Oui, non.
Fait que là, les policiers, ils disent « Ah, ben là, c'est deux amis. » Fait que là, ça les convainc encore plus que c'est une fugue, eux. C'est comme « Ah, ces deux amis sont partis ensemble. »
C'est sûr qu'après coup, c'est toujours facile à dire, mais quand même.
Quand même. Mais Christiane, elle insiste, puis tu sais, à un moment donné, elle dit aux policiers « Tu m'entends, mais tu m'écoutes pas.
Mm. »
Puis le policier, il répond « À quoi tu t'attends, une fille de schlag? »
Ben non.
Ouais.
Voyons donc.
Vraiment, là, aucun respect, là. Il est comme, la madame pauvre de Schlag, là, raconte n'importe quoi.
Pour ceux
c'est
qui
sûr que son enfant, c'est un bum.
Le Schlager Maisonneuve, c'était ben, plus vraiment aujourd'hui, là, mais c'était comme un coin plus réputé pour être
un quartier,
moins fortuné.
C'est
pis,
ça, assez pauvre, ouais. Trash, avec
mais
la
mais ça a vraiment changé maintenant.
Oui, c'est ça. Maintenant, ça s'est quand même gentrifié, là.
Comme Limoilou à Québec avant.
Ouais.
C'était plus trash.
Mm. Fait que la police, ils cherchent les deux petits gars, mais ils sont pas trop inquiets. T'sais, c'est sûr qu'ils annoncent comme genre, t'sais, si vous voyez ces enfants-là, dites-nous-le, mais ils sont pas, ils capotent pas. Là. Mais là, ce qui est fucked up, c'est que c'est pas le seul.
Les deux seuls.
Les deux seuls enlèvements cette journée-là, à Montréal.
Hein?
Je t'amène à Centre-Sud. Pas loin, là.
À côté.
On s'entend, Hochelag, Centre-Sud, c'est deux quartiers collés. Là. Le petit Maurice vient, 4 ans. Il réside sur la rue Dorion, fait que presque au coin de la rue Sherbrooke, dans Centre-Sud. Lui puis son ami Manuel Gagnon, et ils décident d'aller chercher des bonbons au dépanneur. Ensuite, ils vont jouer au parc, qui est au coin de Laurimier, juste à côté. Finalement, ils décident de retourner à la maison. Et c'est là, sur le chemin du retour, il y a une voiture qui approche puis qui s'arrête. Manuel, lui, il voit la voiture, couleur foncée, qui s'approche, mais il se détourne puis il fait juste signe à Maurice comme « Viens-t'en, suis-moi.
Mm-hmm. »
Mais là, le temps qu'il se retourne, Maurice s'est fait embarquer par le monsieur puis l'autoport.
Ça s'est fait rapidement en tabarnouche?
Ouais, ça s'est fait en une fraction de seconde. Fait que là, Manuel, là, il l'a vu. Fait que là, tu sais, là, il parle à ses parents, qu'il contacte la police. Et là, au moins, pour ce cas-là, la police prend ça au sérieux parce qu'il y a un témoin qui l'a vu se faire enlever, là, tu sais. Mais quand même, 3 enlèvements d'enfants le même jour dans presque le même quartier à Montréal. What are the odds, là? C'est fucked up. Et là, évidemment... La population est sur le qui-vive. Tout le monde capote. Là, genre, plus
avec
personne
raison.
Laisse sortir ses enfants et
ben non.
Aller nulle part. Le 3 novembre, donc 2 jours après, un cycliste retrouve le manteau du petit Maurice à Saint-Roch sur le Richelieu. Fait que ça, c'est
Saint-Roch?
Sur le Richelieu. C'est sur la rive sud de Montréal.
OK.
Fait que là, tout de suite, là, toutes les recherches s'orientent vers ce secteur-là. Il y a genre 3000 volontaires qui cherchent le petit Maurice dans le secteur. La police demande au public de fouiller toutes les maisons, les granges, tout ce qui pourrait avoir l'air abandonné.
C'était en quelle année déjà?
84.
OK, on était pas là.
Le 4 novembre, la police reçoit une demande de rançon pour le petit Maurice. La lettre dactylographie, donc tapée à la machine, a été postée à Repentigny. Elle s'adresse à la maman de Maurice, mais c'est la police qui l'a reçue.
Ouais.
Le kidnappeur insiste pour la rencontrer et il lui donne rendez-vous au coin du stade olympique. Et la rançon, il demande combien?
1000 pièces.
20 $.
Hein?
Ouais. Ouais. Probablement la réaction que tout le monde qui a lu cette lettre-là.
Moi, je disais 1000$ dans le sens 1000$, c'est pas beaucoup.
Ouais, 20$. 20$, même à l'époque, c'est rien, là. Tu sais.
Hein?
Qu'en gros, la lettre est assez confuse. Le kidnappeur, il fait plusieurs fois référence à la santé mentale. Genre, il parle des gardiens qui lui ont fait du mal à l'hôpital. T'sais, clairement, la personne qui a écrit ça, son niveau d'éducation est pas très élevé. Il a peu de vocabulaire, fait beaucoup de fautes. Et c'est clairement, vu qu'il fait beaucoup référence à la santé mentale, aux hôpitaux et tout, c'est clairement quelqu'un qui a reçu des soins psychiatriques par le passé.
Il s'y connaît.
Ouais. Puis dans la lettre, il fait croire, en tout cas, ça laisse croire que Maurice n'aurait pas coopéré puis qu'il l'aurait insulté ou je sais pas trop. Qu'il aurait fallu qu'il soit violent envers lui à cause de ça. Là, on a envie, tu sais, tu lis ça, t'as envie de dire bullshit, là. Genre, c'est une fausse demande de rançon, là. Tu sais, c'est juste un fou qui voulait de l'attention. Mm-hmm.
Non.
Mais, non. La lettre contient plusieurs informations que seul le ravisseur pourrait connaître. Des informations qui n'étaient pas sorties au public du tout. Genre, des détails sur l'enlèvement. Par exemple, il mentionne un arc en bois que Manuel, l'ami de Maurice, transportait. Puis ça, il n'y a personne qui savait, là, à part.
Ouais.
À part les parents, Manuel, puis Maurice, genre. Les parents, peut-être. Puis d'autres trucs, genre des habitudes de Maurice. Tu sais. Fait que, comme clairement, ça vient.
C'est en fait, à prendre au sérieux.
C'est vraiment à prendre au sérieux. Mais ça, je sais pas à quel moment ils ont réalisé que c'était vraiment à prendre au sérieux parce qu'il y avait tellement d'informations à ce moment-là. Il y avait plusieurs demandes de rançon. Il y en avait, la plupart étaient bidons. Donc, sur le coup, ils ont décidé de pas communiquer cette lettre-là à Francine, la mère de Maurice.
OK.
Alors que, tu sais, il demandait à Francine de se rendre. Tu sais, lui avait donné rendez-vous au Stade Olympique et tout. Mais bon, tu sais.
Je suis pas sûre de comprendre cette décision-là, mais il devait avoir une.
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui se serait passé si Francine s'est rendue au rendez-vous? On saura jamais. Donc là, pour Maurice, en se basant là-dessus, ben là, ils savent qu'ils ont un suspect qui a des gros problèmes de maladie mentale, peu d'éducation. Puis là, même, ils se demandent est-ce qu'il connaissait Maurice? Genre, pourquoi il veut rencontrer sa mère à ce point-là, tu sais. Le 6 novembre, les bénévoles font la découverte.
Non!
Terrible. Du corps du petit Maurice Vien.
4 ans.
4 ans, tabarnak. Il se trouve dans une résidence secondaire qui était à vendre à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu, donc à une 60 kilomètres de Montréal. Son corps...
Pas loin de Saint-Roch, j'imagine?
Ouais, c'est ça. C'était vraiment comme... Où il a jeté le manteau, c'est comme en chemin vers...
OK.
Vers là où ils ont trouvé le corps. Son corps a été jeté dans le vide sanitaire au sol de la maison. Il a été sévèrement battu. Selon l'autopsie, la cause de la mort serait un coup porté à la tête.
Ben voyons.
Pas de preuves claires d'agression sexuelle, mais il est retrouvé comme à moitié habillé. Les premiers policiers qui sont arrivés sur les lieux, ils ont dû sortir de la maison, puis chacun dans leur coin aller pleurer. Parce que c'était trop... c'était trop tough, là. Tu sais, il y avait tous des enfants eux-mêmes. Même un des policiers là, qui témoigne dans le balado, L'Ombre du doute, il dit « Moi, j'avais un fils de cet âge-là.
Ah. »
Puis il dit « Je l'ai vu, le petit. » Puis il avait les mêmes pantalons que mon gars. Il avait, tu sais, les mêmes cheveux. Genre, ça l'a vraiment...
Ça peut être traumatisé.
Vraiment.
Tu sais qu'en tant que policier, c'est pas une scène sur laquelle
non,
tu veux
pas
rentrer,
non, c'est pas un cas sur lequel tu veux jamais te retrouver... Non.
Tu veux-tu le retrouver, le sale, par exemple?
Au moins que tu veux le retrouver, puis pas nécessairement l'envoyer en prison. Il faut faire d'autres choses. Là, évidemment, les voisins, le propriétaire de la résidence sont questionnés par la police, mais bon, ça mène à rien. Je pense que la porte était débarrée de la maison. C'était facile à rentrer. Il n'y avait personne qui l'habitait, était à vendre. Mais clairement, tu sais, le meurtrier, il connaissait les environs parce que c'était quand même un spot reculé. Bon, pour Francine, la mère de Maurice, c'est la fin des recherches, mais le début de son deuil. Impossible à faire. Mais... Puis, tu sais, d'ailleurs, pour la lettre de rançon, en 1985, l'année suivante, elle a fait une plainte contre la police de Montréal, entre autres, ben, la façon dont ils ont géré l'enquête, puis entre autres pour le fait qu'ils n'ont pas dévoilé la demande de rançon. Donc, il y a eu une enquête là-dessus. La police a été exonérée. Bon, puis c'est ça, à leur défense, il y avait tellement d'informations, tellement de rançons bidons. Puis, ils ont surtout pas voulu prendre le risque d'envoyer Madame Vien devant un fou furieux. Ils savaient pas.
Mais il y a des protections que tu peux prendre, je veux dire.
Écoute.
Elle, si elle avait pu prendre la chance, elle l'aurait faite.
Ben, c'est sûr.
En tant que mère rendue là, tu vas faire n'importe quoi.
Comme...
Tu fais n'importe quoi.
Ben oui, ben oui.
Envoyez-moi avec un fucking gilet pare-balles, là. Qui, ouais. Je sais pas. Il y a tellement de choses qu'ils peuvent faire.
Tellement. Mais, tu sais, c'est ça. Je comprends les deux côtés. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est facile à dire.
Est-ce qu'il donnait, genre, s'il donnait comme une date?
Ouais, je pense qu'il avait donné.
Fait qu'ils se sont même pas pointés à ce rendez-vous-là? Juste la police?
Bonne question. Ils sont peut-être pointés, mais vu que lui, il a pas vu la mère, il s'est pas pointé. Je sais pas. J'avoue que je sais pas.
Ce serait bon à savoir parce que...
Parce que je sais qu'il y avait un lieu, si... il y avait comme le à côté du stade olympique, mais je sais pas s'il y avait une date puis une heure, par exemple. Donc, la famille de Maurice Vien a une réponse, mais pendant ce temps-là, la famille du petit Lubin et Métivier sont toujours dans l'attente. À peu près une semaine après la disparition, Christiane, la maman de Sébastien, a reçu un appel vers genre 10 heures le soir. Au bout du téléphone, c'est un enfant qui pleure. Puis elle demande « T'es qui? Pourquoi t'es pas couché? » Puis ça dit « Salut! » Puis après ça, ça raccroche.
Mais c'était pas son kid à elle?
Mais Christiane a dit qu'elle est convaincue que c'était Sébastien. Ah. Encore aujourd'hui, elle est convaincue. Mais on saura jamais. Le 20 novembre 1984, les... Oui, ça n'a pas de bon sens. Les policiers racontent dans un article de journal... qu'ils ne pensent pas que la vie des garçons Wilton et Sébastien est en danger. Non, non. Leur théorie, basée sur argent, est qu'ils sont avec des gens qui s'occupent d'eux et qui leur font vendre du chocolat.
Hein?
Oui. Dans mes notes, j'écris « What the fuck? »
Mais ça sort d'où, cette théorie-là?
De leur cul, clairement.
Non, non, mais il doit avoir une raison, là. Il doit avoir...
Je comprends pas.
C'est quoi le rapport avec le chocolat? Ils ont-tu vu... Hein?
Je sais pas, c'était pas longtemps après l'Halloween, là, il pensait à des bonbons puis à du chocolat. Je sais pas. C'est vraiment n'importe
fait
quoi.
Fait qu'on a pas de, on sait pas si c'est fondé sur quoi, ça, cette théorie-là. On n'a pas d'informations là-dessus.
Non. Puis tout ça, là, genre, le petit Maurice, il a été retrouvé assassiné, là. Puis il y a deux autres enfants disparus la même journée, puis ils sont là, non, non, eux sont corrects, ils vendent du chocolat. Voyons, tabarnak.
Hein?
Ça a pas de sens.
Mais je suis perdue.
Je comprends pas plus que toi. Le 2 décembre, là, les policiers vont changer de discours parce que
non.
Un chasseur découvre le corps de Wilton Lubin. Il se trouve dans le fleuve Saint-Laurent, coincé sur des roches près de l'île Charon. C'est l'île en face de Boucherville, avec le parc national des îles de Boucherville. L'autopsie révélera qu'il a été étranglé et il y a aussi plusieurs blessures avec une arme tranchante. Aucun doute qu'il a été assassiné. Fait que là, les policiers, ils réalisent leur erreur.
Que ils ne vendaient pas de chocolat, finalement.
Non, non. Mais là, tout le retard que l'enquête a pris, ça fait un mois, là, genre, ils n'ont rien crissé pendant un mois, tu sais. Mais ils ont réalisé leur erreur, mais apparemment, ils ne se sont jamais excusés aux familles. Donc, à ce moment-là, ils savent qu'ils cherchent probablement le corps de Sébastien Métivier. 3 mois après la disparition des garçons, une demande de rançon de 50 000 $ un prix qui est peut-être plus logique, est envoyée à la mère de Sébastien. La demande est faite par une cassette, fait que la police elle demande à la maman si elle reconnaît la voix, mais non, c'était comme une voix un peu robotique.
Ah ben, au moins, ils l'ont montré à la mère cette fois-ci.
Au moins, cette fois-ci, ils l'ont montré à la mère. Elle réussit à... Elle, ça lui redonne espoir, là, comme que Sébastien est en vie. Elle réussit à ramasser l'argent grâce à plusieurs dons. Mais finalement, elle a l'argent, elle attend comme d'autres nouvelles. Puis il n'y a juste jamais d'autres nouvelles de la personne qui a envoyé ça. Puis jamais de rendez-vous qui est donné, jamais de... Fait que ça amène à nulle part. Fait que probablement que c'était quelqu'un qui voulait de l'attention, là, puis qui a envoyé une demande de rançon bidon. Ça arrive tellement dans ces cas-là, puis ça, je comprends tellement pas pourquoi.
Quel genre de crackpot fait ça?
Ça fait juste tellement créer plus de... encore plus de peine à la famille. C'est débile. Puis la photo de Sébastien est mise sur des milliers, centaines de milliers de pintes de lait. Jusqu'à ce jour, le corps de Sébastien n'a jamais été retrouvé.
Hein?
Ça fait 39 ans. C'est fou. Moi, honnêtement, je pense qu'il a été, il était dans le fleuve aussi, mais que son corps a juste pas atterri à la place de Wilton, puis ils l'ont jamais retrouvé. C'est sûr que sa mère, elle garde d'espoir, t'as dit tant qu'on l'a pas retrouvé. Peut-être qu'il est en vie, mais... Et là, la population de Montréal a pas fini d'avoir peur.
Hein?
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Là, bon, j'ai intitulé ça les enfants de novembre, mais il y a une quatrième victime qui est comme probablement reliée à tout ça, quelques mois plus tard. Donc, le 3 juin 85.
OK.
Fait que c'était novembre 84, là, on est en juin 85. Dans le quartier Ville-et-Mort, donc un peu dans l'ouest, là. Le petit Denis Roux Bergevin, 5 ans, il devait commencer l'école en septembre, mais il voulait pas, il voulait rester avec sa maman et sa sœur. Alors là, ses parents se sont dit, bon, OK, on va essayer de le faire sortir un peu plus de la maison, le faire jouer dehors, t'sais, pour comme le sortir des jupes de sa maman. Et là, le 3 juin, il sort dehors à 12h30 pour manger de la crème glacée sur la galerie. Là. Il était devant la maison.
Tu t'es fait enlever là?
5 minutes plus tard, il était plus là. Il s'est fait enlever devant chez lui en plein jour. Sa maman était à côté, là, faisait la vaisselle, genre dans la cuisine à côté, là. Un cauchemar. C'est genre le cauchemar de tout parent.
J'ai
ta face.
J'ai pas de mots. Je sais pas quoi dire.
À vous. Le 8 juin, donc 3 jours plus tard, son corps est retrouvé dans une impasse à Brossard, parmi des ordures. T'es comme...
Ah!
Tabarnak. C'est qui ce monstre-là qui laisse un enfant dans les ordures? Comme...
Ben déjà qu'il l'a enlevé.
Déjà qu'il l'a enlevé, tu sais.
En premier. En plus, probablement maltraité.
Mm-hmm.
Et aucun respect pour le corps,
non,
ni pour la famille.
C'est débile. C'est près de l'autoroute 10, donc environ 10 km de la résidence. Il n'a pas été agressé sexuellement, mais il a toutefois été battu horriblement. Et blessure mortelle par un objet contondant à la tête.
Tout le temps, ça.
Un
enfant, t'as-tu vraiment besoin de faire ça?
Non. Genre, c'est des monstres.
C'est des monstres.
C'est des
monstres, pas d'homo.
Littéralement.
Il n'y a pas d'homo.
Non.
OK.
Là, fait que là, on a 4 enlèvements. Et là...
C'est assez.
Oui, c'est pour cet épisode-ci.
OK, c'est assez.
Les seuls
je pensais que t'allais dire j'en ai un.
Non. Mais là, suis-moi. Les similitudes entre... le meurtre de Morizien et celui du petit dernier, Denis, sont vraiment, vraiment frappantes.
OK.
Un, comme Morizien, Denis est retrouvé sur la rive sud, dans un endroit peu fréquenté. Deux, les types de blessures sont pratiquement identiques. Genre les mêmes endroits sur le corps. Là. Genre okay. Vraiment des zones précises. Là, genre bas du dos, cuisses, vraiment précis. La cause de la mort, un coup à la tête. Quatre, la position des corps est... très similaire. 5, ils ont été dénudés de façon très similaire. 6, dans les deux cas, il y a une voiture qui est impliquée. 7, ils ont été enlevés en plein jour. 8, leur âge est très proche, 4-5 ans, parce que les deux autres gars sont plus vieux. Et 9, les deux kidnappings étaient géographiquement bien placés pour sortir de l'île rapidement vers la rive sud. Il y en avait un qui était proche du pont Jean-Cartier, puis l'autre qui était proche du pont Champlain. Alors là, la théorie serait que Maurice et Denis ont été tués par la même personne, alors que Sébastien et Wilton ont été tués par une autre personne. Que ce serait pas
fait que le même agresseur. Les trois enlèvements de la même journée,
ce serait pas la même personne. Ouais. Ce serait le pire des hasards. Parce que ça serait pratiquement impossible pour un seul agresseur d'avoir été sur les deux lieux des kidnappings en même temps, même s'ils étaient proches. C'était comme dans les mêmes heures, dans les mêmes moments. Puis quand même, enlever trois enfants
à gérer, ouais.
C'est ça, c'est...
Qui sont agités puis qui veulent sortir. Ouais.
Fait que ce serait vraiment peu probable que ce soit la même personne qui a fait les trois enlèvements. Et aussi parce que les modus operandi des deux meurtres sont quand même vraiment différents.
Mm-hmm.
Là, je veux dire ça, c'est plate, là. Les quatre meurtres sont encore irrésolus aujourd'hui.
Hein?
Ouais. Mais, je te laisse pas là. Il y a quand même des bonnes théories.
Tu sais quand tu me gères? Suis-moi, je te laisse pas là.
Okay, il y a quand même des théories vraiment plausibles, des suspects assez intéressants.
Okay.
Là, je t'explique ça. Puis là, écoute, dans les suspects, là, je vais te décrire des monstres. OK. Premièrement, pour la théorie Sébastien et Wilton.
OK.
Qui sont disparus ensemble.
Les plus vieux.
Oui, les plus vieux. Bon, il y a plusieurs choses qui ont été vérifiées. Donc, premièrement, le père de Sébastien, Daniel Métivier, il vendait de la drogue, puis il y avait des problèmes d'argent. Puis ça, c'est vrai. Ça a été vérifié. Une semaine avant la disparition, il est passé à la maison puis il a dit à Christiane, son ex, que quelque chose de grave allait arriver aux enfants.
OK. Parce que c'était lui... une menace ou c'était une...
Non, mais comme parce que lui il avait sentait. Reçu des menaces.
Ah. Oh.
Fait qu'il avait peur pour ses enfants puis il l'a dit à Christiane.
Oh!
Bon, les policiers ont quand même exploré cette hypothèse-là, mais, tu sais, tuer deux enfants dont un pas rapport... dans l'histoire, à cause d'un problème d'argent, ça me semble un peu... Normalement, c'est pas ce que les motards mafias font, tu sais.
C'est pas du monde sans raison, là.
Non, c'est ça. Fait que ce serait quand même étonnant que ce soit ça. Deuxième théorie, en 2011, il y a une femme qui contacte Christiane, la mère de Sébastien, sur Facebook, pour lui dire qu'elle a des informations. Christiane a fini par rencontrer cette femme-là.
2011, calé.
Ouais,
c'est longtemps après.
C'est une vie à chercher des réponses.
C'est 30 ans après, quasiment.
Puis là, cette femme-là raconte que le père de Sébastien, donc Daniel Métivier, quand il était sous, c'est genre sa voisine, là, fait que là, il a dit qu'il avait tué Sébastien lui-même. Fait que là, bon, Christiane, elle dit à la police, puis là, la police, ils vont poser des questions à Daniel, qui accepte de passer un polygraphe. Finalement, il n'y a rien là. Peut-être que Daniel a dit des choses exagérées quand il était sous à la madame qui l'énervait à côté. Puis elle voulait juste de l'attention. Je sais pas. Mais bon, ça a été quand même vérifié. Puis je pense que ça tient sur rien. Là. Troisième, qui est quand même beaucoup plus plausible, c'est un des monstres dont je vais te parler. Serge Gallien, qui était âgé de 24 ans en 84. Avant 84, il avait été accusé d'attentat à la pudeur, d'agression sexuelle sur des enfants. Mais c'est en 86 qu'on apprend à le connaître, donc 2 ans après la disparition des enfants, parce qu'il est arrêté pour enlèvement, séquestration et agression sexuelle sur un enfant de 6 ans, un garçon de 6 ans à Pointe-aux-Trembles. Il est aussi accusé pour agression sexuelle sur une femme de 60 ans. Et
hein?
Pendant son... Lui, c'est tout... Il agresse tout ce qui bouge. Et lors de son arrestation pour l'agression du petit garçon, ben il aurait fait des aveux à la police disant que c'est lui qui avait tué Sébastien et Wilton. Mais finalement, aucune accusation a été portée par rapport à ça contre lui. Puis aujourd'hui, il est encore en vie, mais il est en institution psychiatrique. J'ai pas trouvé plus d'informations sur Serge Gallien que ça. Mais bon, ça reste une possibilité.
OK.
Le quatrième suspect, c'est Jean-Baptiste Duchesneau. C'est pas un doux. Lui, il habitait dans le même quartier que Sébastien et Wilton, sur la rue Adam. Puis, il a déménagé ensuite sur la rue Les Tourneux à l'automne 84. Il était chauffeur de taxi, quand même pratique pour enlever des gens. Et il y avait de lourds antécédents de crimes violents sur des enfants. Et il a souvent séjourné dans des hôpitaux psychiatriques.
Alors, il cochait toutes les cases?
Oui. En 73, il a été condamné après l'agression et le meurtre de Sylvie Tanguay, 6 ans.
6 ans?
6 ans, à coups de marteau. Mais vu qu'il souffrait de maladie mentale, il s'est ramassé en hôpital psychiatrique de 73 à 83.
Il était libéré?
Il était libéré. En 83. Fin 84, il habitait à côté de Sébastien Lubin. Il y a même deux membres de la famille de Duchesneau qui rapportent avoir été agressés par lui.
Ben voyons.
Il y a... je suis pas sûre à 100% que c'est Duchesneau, mais c'est quand même intéressant comme témoignage là, dans l'ombre du doute. Et il y a un témoin, Daniel Lépine, il raconte que... En fait, lui, il est sûr que Duchesneau l'a séquestré quand il avait 8 ans. Quand il a vu sa photo dans le journal, il a fait « C'est lui, j'en suis sûre à 100%. » Puis il raconte son histoire, il dit que il avait croisé devant l'épicerie, puis Duchesneau l'avait convaincu de le suivre chez lui. Arrivé chez lui, Duchesneau, il a barré toutes les portes, puis il a dit « J'attends quelqu'un, et ce quelqu'un-là, il agresse et il tue des enfants. » Puis ensuite, il est parti dans la cuisine chercher quelque chose, puis là, le petit gars, il était quick, il a ouvert la fenêtre, puis il s'est sauvé.
Wow!
Puis apparemment qu'il l'a pas raconté à personne avant des années.
Oh, pauvre petit bête!
Pauvre petit. Mais tu sais, ça nous fait poser des questions. Est-ce que il y avait vraiment quelqu'un d'autre qui s'en venait?
Ou c'était lui?
Est-ce qu'il y avait un complice ou il parlait de lui, tu sais?
Ouais.
Duchesneau, en 93, il est condamné à nouveau pour agression sexuelle sur une fillette de 7 ans. Et le 1er novembre 93, grâce à des informations fournies par les proches de Jean-Baptiste Duchesneau, il y a deux enquêteurs des crimes majeurs du SPVM qui vont le rencontrer en prison ou en institut psychiatrique, je ne suis pas certaine à ce moment-là, pour lui faire subir le test du polygraphe au sujet des meurtres de Sébastien Métivier et Wilton Lubin. Duchesneau accepte de passer un polygraphe puis ils s'entendent pour organiser le test le 3 novembre, deux jours plus tard. Le 2 novembre, le lendemain et la veille du polygraphe, Duchesneau est retrouvé mort dans sa cellule de il était en prison à La Macasa, là où Paul Bernardo se ramasse maintenant.
Ouais.
Il s'est égorgé avec un outil tranchant de fabrication artisanale. Et il a
C'est un
suicide. Il s'est suicidé la veille de passer un polygraphe sur Sébastien et Wilton. Mais il a écrit une lettre de suicide disant qu'il était innocent. Puis que la police voulait y coller des choses sur le dos.
Qu'est-ce qui est vrai?
Puis, bon, là, tu sais, je me dis, est-ce qu'il y avait de l'ADN? Tu sais, s'il y avait de l'ADN qu'ils ont gardé sur... T'sais, est-ce qu'il aurait pu le tester contre Duchesneau? Mais en même temps, je me dis, dans le cas de Sébastien puis Wilton, il n'y a pas beaucoup d'ADN parce que Sébastien, d'un, il n'a jamais été retrouvé. Donc, non. Zéro ADN sur ça. Puis, Wilton, il a été retrouvé dans l'eau après un mois.
Puis, il n'y avait pas de traces d'agression sexuelle que tu as dit.
Non, en plus. Fait que ça se peut qu'il n'y ait juste pas retrouvé d'ADN du tout dans ces cas-là. Fait qu'ils ne peuvent pas, comme, dire
c'est
à 100%.
C'est un enfant, je veux dire, ça se défend, mais pas, tu sais, un adulte qui se fait agresser, souvent, on retrouve en dessous des ongles.
Ouais.
Mais tu sais, un enfant, ça se débat pas tant. Là.
Ouais.
Ça doit être plus difficile de récolter de l'ADN quand il n'y a pas...
Ouais, c'est ça. Tu sais, dans l'eau et tout, donc...
Puis il a passé plusieurs jours dans l'eau aussi. Mm-hmm.
Fait que voilà, ça c'est les théories pour Sébastien et Wilton. Moi, je te dirais que le dernier, c'est...
Parce que c'est suicidé avant le polygraphe?
Ouais. Mm. Ouais.
Puis il voulait clarer son nom. Mais en même temps, tu te suicides, je sais pas... Tu dis pas la vérité avant, dans ta lettre?
Non, c'était un psychopathe, pas nécessairement.
J'avoue. Mm. Bon point. On commence à se connaître un peu trop en psychopathe. On dirait qu'on a toutes les réponses. Pas les réponses, mais en tout cas.
OK, maintenant, je te lance les théories pour Maurice et Denis. Bon.
Oh, j'ai même pas le goût des ententes.
Et puis là, il y a des vrais monstres. Ben, c'était des monstres, là, ceux dont je viens de te parler, là. Bon, tout d'abord, il y a vraiment eu du cafouillage dans l'enquête de Maurice Vien. Parce qu'au début, il était SPVM. Puis là, après ça, quand il a été retrouvé sur la Rive-Sud, c'est passé à la SQ. Puis là, certains des éléments du dossier ont comme mal été communiqués. Puis là, Fait que là, l'enquête de Maurice Vien, c'est la SQ, mais l'enquête de Denis, c'est le SPVM. Fait que les deux meurtres sont probablement reliés, mais c'est même pas le même service de police qui enquête sur les deux, aujourd'hui. Là.
Hein?
Ouais.
OK.
Mais en fait, dans le cas de Maurice, il y a 2 semaines après le meurtre, il y a 2 arrestations qui sont faites. 2 hommes. Claude Quévillon et Marc Perron.
Quévillon, on en connaît un. Tu travailles-tu dans les dépasseurs de Gatineau? Il y en a un, Normand Quévillon.
C'est lequel, non?
Je pense que c'est lui qui traînait sa victime en dessous de son
char. Ah oui. Ah, bon, Quévillon, ouais.
C'est comme ça qu'il s'appelle, toi? Non.
Claude. Quévillon. Ouais, pas Normand, Claude.
Ils sont pas reliés au bien. C'est juste que j'aime m'en rappeler.
Jusqu'à date, dans nos podcasts, Quévillon a pas une bonne réputation.
Ouais.
Et lui, vraiment, vraiment pas.
Vas-y.
Donc, Claude et Marc Perron étaient colocs. Ils habitaient sur la rue Sherbrooke-Est, tout près du stade olympique. Tiens, tiens, dans la lettre confuse de rançon de 20 $
C'était là le rendez-vous?
Oui, à côté du stade olympique. Les deux ont fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et c'est à Pinel, d'ailleurs, que leur bromance a commencé. Claude y était là pour divers crimes violents et Perron pour agression d'enfants. Entre autres, 4 tentatives de meurtre sur des enfants de 3 et 4 ans alors qu'il avait lui-même 14 ans.
Hein?
Ouais. Et le meurtre d'un garçon de 12 ans, Marc Beaudoin, dans la cour de l'école Saint-Bernard à Shawinigan en novembre 1975.
Il avait quel âge?
Il avait 16 ans.
À 16 ans, il a tué un petit garçon de 12 ans.
Oui, avec 31 coups de couteau. Lui, là, il obtenait une jouissance à voir souffrir les enfants.
Mais il était lui-même
un enfant.
Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette tête-là.
Ces deux-là, là, honnêtement, mériterait un film d'horreur.
C'est un duo d'enfer, littéralement.
Il me donne des frissons dans le dos.
Mais voyons donc. Tu sais, c'est quoi ton background pour en arriver là?
Comment? Puis c'est ça, le rendu, c'est de la maladie mentale, là, parce que... Ben, c'est ça, ils sont tout le temps en hôpital psychiatrique, là, sont juste...
Oui, mais tu sais, qu'est-ce que t'as vécu dans ta jeunesse? Tu n'es pas violent comme ça, là.
C'est fucked up, oui.
Tu n'es pas comme ça, tu deviens comme ça.
Après le meurtre, il a été acquitté pour cause d'aliénation mentale. Donc, il est envoyé à Pinel jusqu'au bon vouloir du tribunal administratif. Et il sort encore une fois, des sources qui disent des choses différentes. Une source qui dit qu'il est sorti en 82 et l'autre qui dit qu'il est sorti 3 ans après, donc en 78. En tout cas, il est resté quelques années à Pinel, mais il a fini par sortir. Quand les policiers fouillent l'appartement des deux colocs, il découvre des coupures de journaux qui relatent les enlèvements d'enfants datant des 2 dernières années. Et, encore plus traumatisant, des photos d'enfants qui ont été prises dans l'appartement de la rue Sherbrooke. Et qui faisaient venir des enfants dans leur appartement. Puis on ne sait pas ce qui s'est passé à part ça.
Mais ils ne les tuaient pas. Non. Ils prenaient des photos puis ils libéraient.
Ouais. Ça fait peur en tabarnak.
Les pauvres enfants.
Les deux hommes, comme les deux noms sont arrivés à l'attention des policiers de 2 façons différentes.
Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Fait que Perron, en fait, c'est son agent de probation que quand il a vu le meurtre du petit Maurice...
Il l'a flagué?
Il a tout de suite pensé à Perron. Puis en plus, un lien qu'il a fait dans sa tête, c'est novembre. Parce que le meurtre qu'il avait fait de Perron, c'était à Shawinigan, c'était en novembre 75.
Ouais.
Puis là, c'était en novembre 84. Fait que, il s'est dit, il y a peut-être comme de quoi dans sa tête qu'en novembre, c'est là que ça brasse, genre. Fait que c'est lui qui a contacté la police, puis il dit, comme, hey, vous devriez le checker, lui, c'est un tueur d'enfants. Puis il habite dans le coin.
C'est un agent de probation, c'est pas une job évidente, pareil.
Non. Quévillon, lui, le 2 novembre, le lendemain de l'enlèvement du petit Maurice, il s'est présenté à la police de Repentigny. Oh, encore un autre lien.
Ouais.
La lettre a été postée de Repentigny. pour leur dire qu'il y avait des informations sur la disparition de Maurice. La police de Repentigny l'a envoyé voir la police de Montréal, parce que c'est eux qui étaient en charge de l'enquête. Il est allé voir la police, mais bon, finalement, il n'a pas rien dit. Son véhicule a été fouillé, puis son nom a été pris en note.
That's it.
Ensuite, son nom est revenu sur le radar des policiers, parce que là, les policiers, après avoir reçu la lettre de rançon qui ont établi que ça venait vraiment du tueur, sont allés contacter les hôpitaux psychiatriques, les psychiatres autour de Montréal, à Montréal, pour demander s'ils pouvaient leur donner des noms de patients qui seraient susceptibles d'avoir commis les meurtres. Et c'est là que des psychiatres vont donner le nom de Kevion. Apparemment que tu peux briser le secret professionnel quand c'est, ouais. c'est quand il y a un risque pour autrui. Là,
pour la vie. De...
Oui, c'est ça. Fait que là, quand ils ont le nom de Kevion, ben là, ils voient que dans leur note, il est passé au poste le lendemain parce qu'il voulait donner des informations. OK, fucked up. Et aussi, ah oui, puis ils se rendent compte qu'ils habitent avec un autre fou furieux qui est aussi sur leur liste de personnes interrogées. Et quand ils questionnent le patron de Kevion, ben, il se rend compte que Kevion, d'un, il est chauffeur de taxi, lui aussi.
C'est
mm-hmm. pratique. Et il a retourné la journée de l'enlèvement, il est revenu, puis son taxi était plein de boue. Puis son patron était comme, coudon, t'es-tu allé dans le bois? Voilà. Fait que là, ils interrogent les deux hommes. Et apparemment que Perron avait un alibi, mais je pense pas que ça a été vérifié à 100%. Et puis, mettons que son alibi, c'était Kevion, ben, lol.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi cet alibi-là?
Apparemment que Kevion, en interro, il aurait révélé des détails que seul le ravisseur pourrait connaître. Je sais pas lesquels.
On sait pas quoi. Okay.
Je sais pas quoi, mais clairement, c'était intéressant. Mais là, le travail des policiers est interrompu rapidement. Parce que les deux hommes sont internés à Louis-Hippolyte Lafontaine, à l'hôpital psychiatrique, et c'est un ordre de la cour pour les interner et qui interdit aux policiers de les interroger.
Pourquoi?
C'est, je l'ai noté quelque part, la loi sur la protection du malade mental.
Parce qu'ils pourraient se mettre dans la merde en inventant des détails pas vrais.
Pas assez fonctionnels pour comme répondre à un interrogatoire, tu sais.
Fait qu'ils disent un peu n'importe quoi.
Ouais.
Je peux comprendre. C'est comprendre, frustrant, mais
c'est
je...
frustrant, ouais.
Ouais, ouais. Dis exactement ma frère.
Donc, ils sont internés pendant un bout. Kevion sort de l'hôpital quelques semaines plus tard.
Mais là, la police, elle a-tu droit les dents?
Non, toujours pas.
Ils sont protégés?
Mm-hmm. Fait qu'ils peuvent pas... fait que l'enquête comme...
Genre encore aujourd'hui, là, ils ont jamais interrogé.
Ben attends, j'ai un interrogatoire un peu plus tard.
Ben, ton histoire, elle finit pas, hein?
Non.
Puis le pire, c'est que je sais qu'il y a pas de fin.
Non, il y a pas de fin claire.
Je suis bon. Juste en crise.
Fait que non, l'enquête reprend pas vraiment. Puis il y a aussi peut-être que les policiers se sont dit « OK, c'est probablement eux, mais en même temps, si on essaye de les poursuivre, ils vont probablement être jugés inaptes à suivre un procès. Mm-hmm. Puis que, anyway, ils allaient rester en hôpital psychiatrique pour un bon bout. Puis... probablement que les témoignages qu'ils ont eus ne seraient pas admissibles en cours.
C'est que t'sais. Même, tu sais, il y a un procès. Exemple, il y a un procès, là. T'as ces deux boys-là, OK, c'est eux, fine. Leur sentence, ça va être d'être interné.
C'est ça.
Anyway.
C'est ça.
Fait que la seule chose que ça peut apporter, c'est une conclusion aux familles.
Oui.
Ce qui serait quand même
vraiment nice.
Nice. Puis, mais disons que leur destin à eux change pas.
Un peu parce qu'il aurait vraiment dû les interner, parce qu'ils... En tout cas, les mettre plus longtemps derrière.
Ils ont été libérés. Ah oui, c'est
ouais, attends, c'est pas fini. En 86...
Là, Hélène! Je sais pas pour vous autres, là, les éditeurs, mais je suis taboute.
En plus, il fait chaud.
Ouais, j'ai chaud. J'ai trop bu de café. C'est bon, mais ça, là, c'est que ça touche des enfants. Là,
oh ouais, non, c'est vraiment rough.
Tu sais, même que t'aies des enfants ou pas... Ça n'a pas de bon sens. On sac beaucoup dans cet épisode-là, mais ça mérite.
Ça sort les émotions. Là.
Je suis sûre qu'on n'est pas toute seule à penser ça
non.
en ce moment.
En 85, alors que Claude Kevion il est interné à Louis-Hippolyte Lafontaine, il dit qu'il veut parler à la mère du petit Maurice. Il veut parler à Francine.
Pourquoi?
Puis elle se serait rendue pour le voir, mais quand elle est arrivée à l'hôpital, ils ont dit qu'elle pouvait pas le voir parce qu'il venait de faire une crise puis il était pas en état. Fait que finalement, elle y a jamais parlé. Elle sait pas qu'est-ce qu'il aurait dit.
Tu sais, t'es comme, je veux-tu y parler, je veux-tu pas y parler?
En même temps, tu veux tellement des réponses. Que... Ouais. Quelques années plus tard, là, la police réussit à pouvoir interroger Claude Quévillon.
Ah!
Alors qu'il est encore interné. Et là, je vous conseille, encore une fois, d'aller écouter le balado, L'ombre du doute. Épisode, donc saison 3, épisode 7. On entend l'audio de l'interro de Claude Quévillon. Honnêtement,
frustrant.
Ça donne des frissons partout sur le corps. C'est digne d'un film d'horreur.
Dans quel sens? Il décrit?
Non, il dit pas... Il dit pas de trucs clairs, mais il est juste complètement fou. Genre, ça fait peur, là. Il est désordonné. Des fois, il est pas clair. Il fait des crises. Il essaie de frapper des policiers. Des fois, il part à rire à des moments bizarres. T'sais, il se frappe la tête. C'est vraiment whack, là.
Comme on voit dans les films, là.
Ouais. Tu sais, genre un fou dans un asile.
Camisole de force, là.
C'est ça, là.
Crime, c'est ça, je vais l'écrire.
Ça donne vraiment froid dans le dos. Puis, là, il y a comme une deux. Il dit qu'il y a comme une deuxième personnalité qui s'appelle Yves Cordeau.
Je pense que t'allais dire Zozo.
Puis, dans le fond, Yves, c'est comme le méchant des deux. Fait que là, quand il essaie d'expliquer des trucs pas corrects qu'il a fait,
okay,
il dit c'est
qu'il est limite schizophrène.
Ouais, il est probablement... C'est ça, il y a un psychiatre qui commente l'interro, puis il dit, c'est ça, tu sais, c'est pas une double personnalité, parce que dans les doubles personnalités, t'es pas conscient que t'as une autre personnalité. Fait que ça, c'est plus une fragmentation du moi, que ça s'appelle. Ah. Fait que c'est typique chez les schizophrènes. Donc, probablement qu'il est...
Fait que quand il fait des affaires méchantes, c'est pas lui, c'est...
Yves Cordeau. Fait que c'est comme si, pour se détacher de comme des choses horribles qu'il a faites, parce qu'il comprend que c'est pas correct, genre.
Comme Moïse avec Dieu.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, il blâme sur Yves Cordeau. Mais là, il fait une genre de confession, là. Tu sais, fait qu'il... Il dit que c'est lui qui l'a fait, ou Yves. Puis il décrit en détail les sévices imposés au petit Maurice. Et ça correspond vraiment au rapport d'autopsie. Comme... Vraiment.
Chose que le grand public ne sait pas.
Non, c'est ça. Là, vraiment, genre des détails précis des blessures à telle place, ou tu sais, comme... Puis aussi, dans l'interro, il répète souvent comme « faut aller au stade olympique », comme dans la lettre, t'sais, comme « rendez-vous au stade olympique ».
La lettre qui n'était pas publique non plus.
Non plus. Mais bon, t'sais, les policiers savent très bien qu'ils ne pourront jamais utiliser cet interrogatoire-là comme preuve. Clairement, il n'est pas là. Puis c'est vrai que, t'sais, j'ai pas, t'sais, on n'entend pas l'entrevue au complet, là, t'sais. Ça se peut, tu sais, dans l'état mental, lui, c'est facile de faire dire des choses aussi, je pense, là, tu sais. Ça pourrait être
il aurait pu juste dire, genre, est-ce que tu vas souvent au stade olympique? Ouais. Juste mentionner le stade olympique plusieurs fois, puis là, lui, faut aller au stade olympique.
Ou, tu sais, genre, les blessures, y étaient où? Est-ce qu'elles étaient sur le bras? Tu sais, comme des réponses dirigées, ça se peut vraiment aussi, tu sais. Fait que... C'est comme intéressant comme entrevue, mais ça, tu sais, ça mènera à rien. Et... Claude Quévillon meurt en 2000.
Ah, OK.
Ouais. Perron, lui, de son côté, il est encore vivant. Et en 2015, à Trois-Rivières, il était en liberté. Et il attaque une adolescente, Natacha Raymond, avec un marteau. Heureusement, elle s'en est sortie. Elle a crié, elle a attiré l'attention. Quelqu'un est arrivé. Lui, il s'est sauvé. Fait qu'elle a survécu.
Le marteau, c'était la même arme du crime, non?
On ne sait pas le marteau. Ouais. Non, c'est qui a attaqué? Mais c'est peut-être lui qui a attaqué quelqu'un avec un marteau. Non, lui, c'est pas avec un marteau. C'était du chêneau là, avec un marteau.
En tout cas,
ils sont tous... Sont
ben, t'en as nommé combien des monstres? Là?
4.
Ils sont difficiles à suivre.
Ouais, c'est ça. Fait intéressant, c'était encore à l'automne, l'agression. C'est comme ces moments où il est violent, c'est comme à l'automne. Et bon, aujourd'hui, il est en institut psychiatrique. J'espère qu'ils vont le garder en dedans. Fait intéressant. Serge Gallien, donc un des suspects dans le meurtre de Sébastien et Wilton, ben, il connaissait Perron et Quévillon, en fait, parce que Quévillon, il a habité chez la sœur de Gallien après les événements.
Quévillon a habité chez la sœur de Gallien. Gallien, lui, c'était les deux plus vieux.
Ouais, lui, il est suspect dans l'affaire des deux plus vieux.
C'est difficile à suivre, quand même.
Oui, oui, il y a beaucoup de...
Quévillon, c'est lui qui vient de mourir en 2000.
Oui, ouais, lui qui est complètement fou.
Puis avec là, lui, il a habité chez la sœur de l'autre.
De l'autre. Puis il était coloc avec après. Perron. Puis là, il reste du chêneau. Les quatre, ils habitaient vraiment là, dans le même quartier. Là, genre vraiment pas loin. Puis là, on sait qu'il y en a trois là-dedans qui se connaissaient. C'est quand même wack.
Ça peut pas tout être des coïncidences.
Ouais, c'est ça.
Puis là, les trois boys sont enlevés la même journée. Ouais. T'sais.
Mais moi, je me dis, ça se pourrait-tu qu'ils se soient crinqués avant, genre. Ouais. Ils se sont vus, se sont crinqués à comme kidnapper des enfants. T'sais, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Puis c'est ça, les années... ça, je t'ai raconté quatre cas, mais dans les années de 80 à 95, il y a eu vraiment un grand nombre de meurtres d'enfants dans la métropole. Puis la plupart sont encore irrésolus aujourd'hui. Voilà! Je pense que j'ai tué Mel.
Ben là, c'est frustrant.
Ah, je sais. Mais là... Mais c'est pour ça aussi que je me dis, c'est bon de raconter ces histoires-là, là, tu sais. Mm. S'il reste de l'ADN, quelque chose, tu sais, ils peuvent peut-être refaire des tests aujourd'hui avec la généalogie génétique, tu sais. C'est peut-être pas trop tard pour résoudre ces cas-là, là. En way, gang!
Donnons des conclusions aux pauvres familles.
Ben oui, hey, ça va faire 40 ans l'année prochaine, là. Puis la pauvre Francine, Christiane. Christiane, ils n'ont jamais retrouvé le corps de Sébastien, tu sais. Ça n'a pas de sens. Fait que c'est ça. Vous irez écouter le podcast de Stéphane.
Je veux vraiment l'écouter. Tu peux-tu répéter saison 3, épisode 7?
Ouais.
C'est ça?
Ouais, pour écouter l'interrogatoire. C'est ça que je vais écouter. Ouais.
Mm. C'est ça que j'ai écouté. Si jamais vous l'écoutez, vous nous en donnerez une nouvelle.
Ouais, nous en donnerez une nouvelle, ouais.
Merci, Hélène, pour cette histoire.
Ça fait plaisir.
Désolée pour mes nombreuses réactions, mais calé.
Ah, c'est rough, là. Ça fait longtemps que je voulais la raconter. Celle-là, j'avais écouté le balado, je sais comment. C'est,
t'attendais t'sais... novembre?
Ben, j'attendais novembre, ouais. Mm. Ouais, je me suis dit, ça va fitter.
Mm. On est de même.
Puis je savais que c'était quand même beaucoup de recherches, là, quand même, une grosse affaire. Là. C'est grosse ça, c'est mêlant, là, je sais, là, il y a comme plein de cas, puis de. Plein de cas, plein de fous furieux.
Ça me fait capoter le nombre de pédophiles qui sont
autour de nous.
Tu m'enlèves les mots de la bouche.
C'est quand même épeurant.
Bon,
on va arrêter cela avant qu'on meure de chaud.
Ouais.
Et on est le 5 octobre. Il fait 33 degrés.
On est le 5. Okay.
Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que la semaine de ma fête, genre, j'aurais pu faire un party piscine. C'est jamais arrivé dans ma vie.
Un party piscine, c'est vrai.
C'est vrai? C'est genre, j'ai
il
jamais.
Fait 28 en ce moment.
Puis genre, ressenti 33, je pense.
Je sais pas, c'est écrit 28.
Ah, OK. Et il fait chaud, là.
Ouais. On parle de la température, ouais. C'est parce qu'on essaie de s'aérer l'esprit.
Oui, c'est ça.
Bon, on va finir cela. Fait que merci beaucoup de nous avoir écoutés encore une fois. On espère que le son était bon.
Oui.
Anthony nous gère, fait ouais. Que ça devrait être
puis,
meilleur.
J'espère que vous avez acheté plein de merch, parce que là, on enregistre avant le lancement de la merch, mais ouais. En tout cas, ça va sortir début novembre, fait que j'espère que vous aimez notre merch puis que vous allez en acheter. Ouais!
Nous
vous enverrez des photos de vous avec vos bins.
Les bins. On vous aime fort, puis à la bin prochaine. C'est moi qui est censée dire ça, vu que c'est
oui,
moi
c'est
qui
vrai, qu'on a switché. Ouais.
À la bine prochaine!
Bye!
J'ai le goût de tout décoller ici.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.